Avançons donc dans notre étude du Saint Sacrifice et de la Messe. Donc, rappelez-vous, nous avons fait un petit peu l'examen de toutes les grandes parties, l'offertoire, la consécration, la transsubstantiation, l'immolation. Nous avons essayé de voir en quoi consistait cette immolation sacramentelle, qui n'est pas sanglante, mais qui est quand même bien, bien réelle. Et il faut en arriver donc maintenant à la conclusion de la messe, qui est la communion qui achève le sacrifice et qui en applique les fruits à ceux qui sont présents. Le saint Thomas d'Aquin le dit, et c'est la doctrine de l'Église constante, l'Eucharistie est à la fois sacrifice et sacrement. Sacrifice, bon, c'est donc ce que nous avons vu. La consécration et sacrement, bien sûr, puisque ce sacrement demeure, vous voyez, et nous communique les fruits du sacrifice. Précisément, l'application des fruits du sacrifice se fait directement par la communion. Elle peut se faire autrement, mais elle se fait essentiellement par la communion. Rappelons-nous, nous l'avions dit, je crois, une fois, que la communion du prêtre... Quant à elle, la communion du prêtre est absolument nécessaire. Il n'y a pas de possibilité pour le prêtre de célébrer la messe sans communier. La communion du prêtre marque l'achèvement du sacrifice, c'est la mendication de la victime. La victime est détruite par la mendication que fait le ministre. Celui qui a sacrifié, donc ensuite, eh bien, détruit. Comme autrefois dans les sacrifices, l'Holocauste notamment, tout était consumé. Et donc là, tout est consumé effectivement par la communion du prêtre. La communion des fidèles, elle, n'est pas nécessaire en soi. Une fois que le prêtre a communié, eh bien, en soi, la messe est achevée. Le sacrifice, disons, est achevé. C'est pourquoi, vous le savez, c'est une drôle de religion que de se limiter à cela. Celui qui quitterait la messe après la communion du prêtre, aurait accompli le précepte. Il a assisté au sacrifice. Le sacrifice commence à l'offertoire, se consomme à la consécration et s'achève à la communion du prêtre. Donc il faut être là, eh bien, pour ces parties intégrantes là, de la messe. Voyez. Donc on peut arriver, effectivement, sans manquer au précepte, on peut arriver juste avant l'offertoire et partir juste après la communion du prêtre. Mais attention, on fait un péché véniel, hein. Quand même. Hein. Bon, on a accompli le précepte, mais il y a quand même péché véniel à arriver sans raison après le premier signe de croix du prêtre. Eh oui, il faut être là dès le début, au premier signe de croix, in truibo ad altare Dei, eh bien, il faut être là. Ce qui arrive, bon, bien sûr, ceci vaut pour la messe de précepte, hein, c'est clair, hein. Ce qui arrive sans raison, sans empêchement, etc., par négligence, par paresse, après donc le signe de croix du prêtre, eh bien, on fait un péché véniel. Et ceux qui partiraient donc avant la fin de la messe, avant les prières, ou bien le dernier évangile, disons, au moins, et également, ceux qui partiraient avant, sans une raison impérieuse, eh bien, feraient également un péché véniel. Bon, enfin, ça, c'est des considérations pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce qu'était le sacrifice de la messe. C'est bien évident que pour nous, ce sont des choses qui vont de soi. On est là dès le début, même en avance, comme pour les conférences d'ailleurs. Et on part bien après la fin de la messe, après une bonne action de grâce. Bon. Voilà, donc la communion, donc je n'envisagerai pas directement la communion du prêtre, je l'envisagerai plutôt sous le rapport où le prêtre communie également en tant que fidèle. Le prêtre est ministre du sacrifice, bien sûr, donc il accomplit cet acte ministériel de la communion, mais également, elle lui profite à lui en tant que baptisé, si on peut dire, en tant que fidèle. Oui. Et sous ce rapport-là, eh bien, il est au même plan que les autres fidèles. Donc c'est cela que nous considérerons un peu ce soir, la communion. La communion qui est, bien sûr, nous voyons tout cela, généralement c'est la partie qui nous plaît le plus dans la messe, parce que là, on reçoit donc notre Seigneur, on reçoit l'Eucharistie, bon, tout cela est très 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 beau, bien sûr. Et il est clair que la communion, justement, qui vient, oui, si on veut bien comprendre ce qu'est la communion, la raison d'être de la communion, il faut bien la considérer dans la liturgie de la messe. Oui, sa place, bien sûr, elle vient après le sacrifice. Oui, le canon, donc, le canon s'achève avec ce per ipsum, cum ipso et in ipso, oui, esse tibi, deo patri omnipotenti, in unitate spiritus sancti, omnis honor et gloria per omnia secula seculorum. Amen. Tout le monde répond Amen. Bon, voilà, très bien. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on approuve, on adhère à ce qui vient d'être réalisé. Et notamment, on adhère à quoi? Eh bien, à ce qui vient d'être dit. Et rendre tout honneur et toute gloire à Dieu le Père, par notre Seigneur, avec notre Seigneur, comme notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit. Et voilà ce à quoi nous adhérons. Et voilà ce que nous voulons faire. C'est ce à quoi nous tendons, toute notre âme tend à rendre à Dieu tout honneur et toute gloire. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons communier. Nous allons communier, eh bien, pour faire la même chose que notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous avons dit Amen, très bien. Après, que faisons-nous? Récitation du Notre Père, c'est très beau, c'est très important. Que signifie ce Notre Père à ce moment-là? Eh bien, nous affirmons notre volonté. Quelle est notre volonté? Que votre volonté soit faite, que votre règne arrive, etc. Voilà, donc c'est la même disposition qui demeure. Tout honneur et toute gloire, ensuite le Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, c'est la même idée, la même pensée. Et pour mettre ce programme en application, eh bien, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et donc, nous allons communier pour cela. Et c'est important à bien comprendre cela. Oui. Nous n'allons pas tellement, bien sûr, les deux se tiennent. Hein. Nous n'allons pas tellement communier, si vous voulez, pour nous-mêmes, parce qu'on en a besoin. Oui, c'est vrai, on en a besoin. Mais on n'en a besoin pas pour nous-mêmes. On en a besoin pour rendre à Dieu tout honneur et toute gloire. Voilà la mission du Fils de Dieu, la mission des enfants de Dieu, eh bien, c'est de glorifier notre Père sur la terre. Et c'est une mission difficile. Et pour cela, ben, nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors nous allons communier. Voilà. Alors bien sûr, il est clair que dans la communion également, nous recevons des grâces pour nous, mais ces grâces que nous recevons, eh bien, normalement, elles doivent nous porter justement à glorifier notre Père qui est aux cieux. Ouais, tout est très logique et tout se tient. Et c'est dans cet esprit-là, je pense, qu'il serait beau d'aller communier. Oui, la communion à notre Seigneur, en plus, n'oublions pas que cette communion à notre Seigneur crée également la communion entre ses membres. Oui, la communion crée l'union avec notre Seigneur, mais également avec tous les membres de notre Seigneur, hein, l'union au corps mystique. Lorsque nous nous unissons à Jésus-Christ, mais nous nous unissons en soi à tous les membres de son corps. Mais là où est la tête, là sont les membres. Hein. Et donc, ce mot communion est d'une richesse incalculable. Ouais. Communion à Jésus-Christ, communion à tous les membres de Jésus-Christ. Ouais. Et c'est cette communion au corps et au sang de notre Seigneur, c'est-à-dire communion à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'acte de son sacrifice, l'acte de sa plus grande charité, eh bien, c'est cette communion qui est la source permanente de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, elle se fait précisément dans cet acte de la communion. Oui. Et communier, justement, bien, oui, c'est un geste, c'est un acte qui, fait par les chrétiens, eh bien, a pour finalité, finalement, d'unifier, si on peut dire, la multiplicité des membres, oui. Nous sommes multiples, les membres de l'Église sont je ne sais combien, peu importe. Donc nous sommes multiples, et dans l'acte de la communion, finalement, eh bien, nous réalisons justement une certaine unification par l'unité à Jésus-Christ, par l'union à la tête du corps mystique. Et communier, en fait, ce n'est pas attirer notre Seigneur Jésus-Christ à soi-même, non, nous n'attirons pas Jésus-Christ à nous, mais nous sommes au contraire, nous nous jetons tous ensemble, tous ceux qui communient, eh bien, se jettent dans l'unique Jésus-Christ. Voilà. Et là, ben, tous nous nous retrouvons en notre Seigneur Jésus-Christ par cet acte de la communion. Et donc la communion, c'est vraiment celle-là que s'édifie sur terre, eh bien, le corps mystique et le royaume de Dieu. par l'acte de la communion, fruit du sacrifice, bien sûr, mais dans l'acte de la communion, c'est là que se réalise la communion. Hein. C'est ce que dit saint Paul, du moins ce qu'il évoque, hein, quand dans cet épître au 1er aux Corinthiens, chapitre 10, « N'est-il pas vrai que le calice de bénédiction que nous bénissons est la communion du sang de Jésus-Christ, et le pain que nous rompons est la communion du corps du Seigneur ? Car nous ne sommes tous ensemble qu'un seul pain et un seul corps, parce que nous participons tous à un même pain. » Et nous participons au même pain, le pain eucharistique. Bon, ouais. Et donc, eh bien, c'est là que nous réalisons cette... Ouais, nous sommes tous ensemble un seul pain et un seul corps. Ouais. Donc, édification du corps mystique par l'acte de la communion. Alors, dans l'Eucharistie, les théologiens distinguent, il faut toujours des distinctions, il y a plusieurs, c'est un mystère et on essaie un petit peu d'expliquer, donc on essaie d'examiner un petit peu les différents aspects de ce mystère. Les théologiens, et c'est vrai pour tous les sacrements, mais enfin, parlons de l'Eucharistie, trois choses, trois aspects dans l'Eucharistie. Il y a d'abord ce qu'ils appellent le sacramentum, c'est-à-dire le signe. Le signe, c'est-à-dire ce qui est objet de la perception sensible, ce qui tombe sous les sens. Eh bien, dans l'Eucharistie, eh bien, ce sacramentum, le signe, ce que l'on voit, eh bien, ce sont les espèces eucharistiques. Facile, ça. Donc, un morceau de pain de forme ronde, blanche, etc. Bon, ça va bien. Voilà ce qu'est le signe dans l'Eucharistie. Ensuite, il y a la réalité, la res, la chose, la réalité. La réalité, c'est-à-dire ce qui est non plus cette fois l'objet de la perception sensible, mais ce qui est l'objet de la foi. La réalité qui ne se perçoit pas donc avec les sens, mais qui est objet de la foi. Hein. Ce que l'on croit, et là, quelle est la chose, la réalité, donc, dans l'Eucharistie, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ glorieux. Notre Seigneur glorieux, mais avec son corps donné, son corps livré et son sang répandu. Ne l'oublions pas, hein. Il est là glorieux, c'est sûr, mais il est également avec son corps donné, son corps livré et son sang répandu. Le sacrifice est réellement présent. Et puis enfin, la troisième réalité, c'est celle qui est la plus subtile, si l'on peut dire, à définir, du moins à exprimer en bon français, c'est ce qu'on appelle la res et sacramentum, voyez, qui unit un peu les deux, si l'on peut dire. Voyez. C'est-à-dire, c'est la réalité ultime. Donc il y a d'abord ce que je vois, ce que je crois, et ensuite, vous voyez, c'est l'effet de cela, la réalité ultime qui va être donc réalisée eh bien par ce que je vois et ce que je crois. Et cette réalité ultime, eh bien, c'est le corps mystique. Et dans l'Eucharistie, eh bien, il y a également le corps mystique. La réalité ultime du sacrement de l'Eucharistie, eh bien, c'est le corps mystique qui est contenu, si on veut, dans l'Eucharistie comme l'effet est contenu dans la cause. C'est l'Eucharistie qui est cause du corps mystique. Donc, d'une certaine façon, le corps mystique est pré-contenu, si l'on veut, dans l'Eucharistie. Vous voyez, c'est immense, hein? Immense, là. Oui. Quand vous communiez, vous vous rendez compte un peu, vous recevez d'une certaine façon, ou bien nous nous jetons d'une autre façon, dans le corps mystique. Oui. C'est par cette union à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la réalité ultime, l'effet ultime de l'Eucharistie, de la communion, eh bien, c'est l'édification de l'Église, l'édification du corps mystique. C'est pourquoi l'Eucharistie est vraiment le plus grand bien de l'Église. L'Église n'a pas de plus grand trésor que l'Eucharistie, puisque c'est elle, finalement, qui est la cause de son unité. C'est l'Eucharistie qui fait que l'Église est une, qu'elle est, finalement, qu'elle a une existence, une unité, et qu'elle est ce qu'elle est. Et l'Église n'a pas de plus grand trésor que l'Eucharistie. Et combien on comprend, justement, c'est ce culte qu'elle a pour l'hostie, pour le saint sacrifice de la messe, ou la prudence qu'elle a, ne serait-ce que pour la réserve de l'hostie, ou bien les cérémonies, expositions, processions, etc. C'est extraordinaire. Il n'y a que pour l'hostie, pratiquement, que l'Église déploie un tel faste, un tel décorum et de telles précautions, si l'on veut. Oui. Et ce que dit saint Thomas d'Aquin, là, une citation, « Le bien commun spirituel de l'Église entière, le bien commun, bon, qui transcende donc tous les biens particuliers des uns et des autres, le bien commun spirituel de l'Église entière est contenu substantiellement dans le sacrement même de l'Eucharistie. » Voilà, le sacrement même de l'Eucharistie, eh bien, contient substantiellement le bien commun spirituel de toute l'Église. Tout est là. Et c'est normal, si on sait, si vous avez compris, après tout ce que nous avons étudié jusqu'ici, ce qu'était l'Eucharistie, bon, si l'Eucharistie est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident, je dirais à ce moment-là, que tout le bien de l'Église est en notre Seigneur. Et saint Thomas d'Aquin dit quelque part, je ne sais plus où, malheureusement, je ne retrouve pas la référence, mais enfin, ça n'est pas grave, j'espère que vous me ferez confiance. Ouais. Et bien que dans... si vous prenez le Christ et vous lui ajoutez le corps mystique, eh bien, il n'y a pas plus de sainteté que dans le Christ tout seul. Mais le Christ plus tous les saints, plus tous les âmes en état de grâce ici-bas, eh bien, il n'y a pas plus de bien dans tout cela que dans le Christ tout seul. C'est normal, c'est logique. Et d'où découle la sainteté? La grâce qui est en nous, d'où vient-elle? Elle vient de Jésus-Christ. La sainteté qui est celle des saints du paradis, d'où vient-elle? Et c'est celle de Jésus-Christ. Donc il n'ajoute rien à la sainteté du Christ, ouais. Mais c'est la sainteté du Christ qui découle en eux, et c'est la grâce de Jésus-Christ qui découle dans nos âmes. Donc nous n'ajoutons rien, nous, à la sainteté de Jésus-Christ. Ouais. Donc il n'y a pas plus de sainteté, vous voyez, dans l'Église tout entière, y compris Jésus-Christ, que dans Jésus-Christ tout seul. Bon, voilà. Oui, il y a de quoi... Hein, il y a de quoi méditer sur tout cela. Oui. Et oui. Alors il y a... Parlons quand même un peu de la communion, donc cet acte de la communion qui achève le sacrifice d'un côté, puis qui d'un autre côté donc nous fait communier, nous fait rentrer justement dans ce sacrifice. Oui. Eh bien, il y aura trois manières de communier, dont une que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas. Enfin, ne connaissait pas, je m'entends, pour lui, ça ne... Enfin, voilà, quoi, il ne la considérait pas. Il y a trois manières de communier. Bon, cela, c'est tout à fait traditionnel, si l'on veut. Et ça sera repris, cet enseignement sera repris par le Concile de Trente, oui, dans un chapitre où il parle de l'usage de cet admirable sacrement. Saint Thomas d'Aquin, lui, parle de deux seules façons de communier, la communion sacramentelle, dit-il, et la communion spirituelle. Communion sacramentelle et communion spirituelle. Mais pour lui, la communion spirituelle, c'est la communion sacramentelle à laquelle on ajoute la communion spirituelle, à laquelle on adhère, vous voyez, par l'âme, par la foi, par la charité. Vous voyez. Donc on ne se contente pas de recevoir le sacrement, mais en plus, on ajoute, vous voyez, cette communion intérieure de l'âme, de l'esprit, vous voyez, par la foi, la charité. Vous voyez. Donc, il distinguait la communion sacramentelle de celui qu'elle est communiée, comme ça, simplement, par routine, sans y penser, communion purement sacramentelle. Bon, c'est tout. Mais à laquelle manquait la communion spirituelle. Ouais. Alors que la communion spirituelle, en soi, c'est la belle, pratiquement la seule façon chrétienne vraiment de communier. Hein. Non seulement on reçoit le sacrement, mais en plus, bien sûr, on adhère à ce que l'on reçoit. Oui, donc il y a cette première communion, enfin, première façon, disons, de communier, oui, qui est celle qui nous est exposée par saint Paul, dont nous avons parlé là un peu, cette communion sacramentelle, et comment dire cela, la communion sacramentelle et spirituelle, qui est la façon normale de communier. Non seulement on reçoit le sacrement, mais en plus, il y a cette communion intérieure par la foi, par l'amour, qui porte justement l'âme qui communie, eh bien, à communier au corps et au sang de la victime. On ne se contente pas de recevoir, vous voyez, l'hostie, mais en plus on communie eh bien, à l'acte sacrificiel. Ouais. Vraiment, on adhère à cet acte sacrificiel. Bon, par la foi et la charité, tout simplement. On recueille les fruits du sacrifice et on adhère justement bien à la source, à l'arbre, si l'on veut, dont cette hostie est le fruit. Ouais. Et cet arbre, c'est le sacrifice. Donc, avec justement cette volonté intérieure, eh bien, d'imiter notre Seigneur. Et avec lui, eh bien, de rendre gloire à Dieu son Père, comme il l'a fait lui-même, par le sacrifice de notre vie, selon les dispositions de la Providence. Ouais. Donc là, il y a la communion normale, totale, disons, à la fois sacramentelle et spirituelle. Bon, c'est bien. Ensuite, il y a la deuxième façon de communier, non, et cette communion seulement sacramentelle, et elle, ben, c'est la communion sous les que peuvent faire, malheureusement, les pécheurs. Les pécheurs. Ils communient sacramentellement, mais il n'y a pas la communion spirituelle. Oui. Parce que peut-être ils ne sont pas en état de grâce, ou bien ils pensent à autre chose, etc., où il n'y a pas cette adhésion intérieure. Oui. Et c'est là-dessus que saint Paul tonnait un peu dans son épître aux Corinthiens. C'est des versets qui font un peu frémir, hein. Quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Et c'est grave. Hein. C'est-à-dire que celui qui communie en état sans être en état de grâce, en fait, eh bien, il participe, il est coupable du corps et du sang du Seigneur. Donc il est coupable, finalement, de la mort du Seigneur. Hein. Coupable du corps et du sang. Ouais, donc de la réduction de notre Seigneur à l'état de victime. Ouais. Celui qui reçoit qui mange ce pain ou boit le calice ainsi, eh bien, il est coupable. Et de toute façon, il fait un péché, hein, c'est clair. Que l'homme donc s'éprouve lui-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Et c'est pour cette raison, il ajoute, ouais, qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et que plusieurs dorment du sommeil de la mort. Multidormiunt, beaucoup dorment. Et oui, il y en a qui dorment. Ouais. Oui, ça c'est la communion, donc purement, uniquement sacramentelle. Alors bon, soit on n'est pas en état de grâce à ce moment-là, donc effectivement, on est coupable de la mort de notre Seigneur, soit, ben ma foi, on communie, mais l'âme est ailleurs, et donc en fait, on ne va pas en recueillir beaucoup, beaucoup de fruits. Hein. Et puis enfin, il y a la troisième communion que saint Thomas d'Aquin, lui, ne connaissait pas. Lui, pour lui, cette troisième façon de communier, non pas qu'il ait été contre, mais bon, voilà, il n'en parle pas, en tout cas, quand il traite de la manière de communier, c'est ce que nous appelons donc la communion spirituelle. Ouais. Communion spirituelle qui se fait sans la communion sacramentelle, ouais. Uniquement par le désir. Par exemple, l'adoration du Très-Saint-Sacrement, le désir de s'unir à notre Seigneur, le désir de communier lorsqu'on en est empêché. Bon, saint Thomas d'Aquin la connaissait, il parle, si vous voulez, de cette façon-là, mais quand il examine les différentes façons de communier, il ne l'examine pas. Bon, c'est une façon, quand même, qu'il admet, de s'unir à notre Seigneur. Hein, il en parle, vous voyez. Où est-ce qu'il dit cela ? Oui, c'est une façon de communier, c'est-à-dire pour lui de percevoir l'effet du sacrement. Oui. Sans communier, peut-on percevoir l'effet du sacrement? Il admet qu'effectivement, on peut recevoir l'effet du sacrement sans recevoir ce sacrement. C'est ainsi, il compare cela au baptême. C'est ainsi que certains sont baptisés du baptême de feu à cause de leur désir du baptême, avant d'être baptisés du baptême d'eau. Le désir du baptême, mais le désir de celui qui doit être baptisé, attention, hein. Le désir de l'âme qui aspire au baptême. Hein. Bon, ça peut effectivement obtenir l'effet du baptême s'il y a impossibilité d'obtenir le baptême d'eau lui-même. Et de même, certains mangent spirituellement ce sacrement avant de le consommer sacramentellement, et par le désir. Cela arrive de deux façons. La première vient du désir de manger le sacrement lui-même. C'est ainsi qu'on dit qu'ils sont baptisés ou qu'ils mangent spirituellement, mais non sacramentellement, ceux qui désirent recevoir les sacrements depuis qu'ils sont institués. Et l'autre manière est figurative, ça c'était pour les pères de l'ancienne loi, hein, qui communiaient d'une certaine façon à l'effet de l'Eucharistie, eh bien en pratiquant les sacrements de la loi ancienne. Hein. Cependant, il ajoutait, bien sûr, la manducation sacramentelle n'est pas inutile, attention, hein. Il ne faut pas se contenter de cette communion purement par le désir, hein, ça c'est... Car la réception même du sacrement produit l'effet du sacrement avec plus de plénitude que le simple désir. C'est évident, pense du moins. C'est bien d'avoir le désir, mais c'est quand même mieux d'avoir le sacrement. Donc voilà ces trois façons de communier. La communion donc sacramentelle et spirituelle, la communion seulement sacramentelle, et puis enfin la communion seulement spirituelle. Et cela a donc été admis, reconnu par le Concile de Trente, l'usage de cet admirable sacrement. Pour l'usage, nos pères ont justement et sagement distingué trois manières de recevoir ce saint sacrement. Ils enseignent que les uns ne le reçoivent que sacramentellement, ce sont les pécheurs. D'autres ne le reçoivent que spirituellement, ce sont ceux qui, mangeant en désir le pain céleste qui leur est offert, avec cette foi vive qui opère par la charité, en ressentent le fruit et l'utilité. Ah oui, mais il faut que ce désir soit vraiment un désir surnaturel, hein. Pas simplement comme ça un petit désir sentimental, oh mon doux Jésus, je ne sais pas quoi, hein, non. Vraiment un acte de désir théologal. Hein. Oui, le Concile de Trente le dit bien, hein, avec cette foi vive qui opère par la charité. Hein. Et si vraiment on ne communie pas, mais c'est parce qu'on en est empêché, il y a un obstacle, ou bien on ne peut pas aller à la messe, ou je ne sais quoi, ça. Vraiment un obstacle. Ouais. Et à ce moment-là, bien sûr, vous voyez, cet acte de foi, cet acte de désir animé par la foi et la charité, effectivement, bien, peut obtenir les mêmes effets qu'une communion eucharistique. Ouais. Et d'autres encore le reçoivent à la fois sacramentellement et spirituellement. Ce sont ceux qui s'éprouvent et se préparent de telle sorte que, vêtus de la robe nuptiale, ils s'approchent de cette table divine. Et ensuite, le Concile ajoute quelques petites considérations dont nous parlerons. Dans la réception sacramentelle, il a toujours été d'usage dans l'Église de Dieu que les laïcs reçussent la communion des prêtres. Et que les prêtres qui célèbrent se communiassent eux-mêmes. Et c'est à bon droit et à juste titre qu'on doit garder cette coutume comme venant d'une tradition apostolique. Bon, nous verrons, tout à l'heure nous en parlerons. Ouais. Ouais, les termes du Concile sont quand même assez mesurés. C'est de cela, malheureusement, que profitent certains aujourd'hui dans la Sainte Église de Dieu. Ouais. Le Concile parle d'usage dans l'Église de Dieu, ouais, de tradition. Ouais. Bon. Voilà. Voilà, donc ces différentes façons de communier, ces trois modes, vous savez, de recevoir donc la communion. Bon, je pense que la chose n'est pas très, très difficile à comprendre. Hein. Mais il faut bien comprendre, vous voyez, pour bien communier, c'est pas toujours facile, hein, ça c'est clair, de bien communier, que ce contact sensible et que l'on a avec les espèces eucharistiques, contact sensible. Donc, nous le disions l'autre fois, si vous vous rappelez, cette question, distinction entre la substance et les accidents. Oui. Lorsque vous communiez, eh bien, vous percevez les accidents. Vous recevez, vous sentez le goût du pain. Vous ne sentez pas le goût de Jésus-Christ. Vous avez donc la saveur, l'odeur, éventuellement la forme du pain. Et derrière ces accidents, mais vous avez la substance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, bon. Et donc ce contact sensible avec les espèces et la manducation des espèces eh bien, n'est que le symbole et le moyen justement de cet autre contact, lui invisible et spirituel, avec notre Seigneur. Et c'est celui-là qui compte. Mais c'est pas le contact sensible avec les espèces. Et pas parce que l'hostie a bon goût qu'on va communier. Ça, c'est des trucs d'enfant, ça, si on veut, quoi. Hein. Bon, on peut le pardonner aux enfants, mais pas aux adultes, quand même. Vous voyez, ce contact sensible n'est rien, en soi. C'est un moyen, simplement, justement, mais de cet autre contact intérieur, spirituel, mystique, avec notre Seigneur. Ouais. Et ça nous rappelle un peu, peut-être, certains contacts, justement, que nous raconte l'Évangile entre les pécheurs et notre Seigneur. Ouais. Contact sensible. Toucher la frange du vêtement de notre Seigneur. Ouais. Pourtant, en soi, qu'est-ce que c'est ? Toucher la frange du vêtement de quelqu'un, c'est rien. Mais ça produisait quelque chose parce qu'en fait, il y avait un autre contact, par la foi. Ce qui faisait dire à notre Seigneur, alors qu'il était pressé par une foule, « Quelqu'un m'a touché ». Il dit, bon, enfin, maître, quand même, regardez, bien sûr, vous êtes pressé de toutes parts. Mais qui ? Bien sûr, tout le monde vous touche. Non, non. Un autre contact, vous voyez, qui n'était pas le contact simplement sensible, qui était justement ce contact par la foi. Et voilà le contact qu'il faut établir par la Sainte Communion. Hein. Le contact sensible avec notre Seigneur n'est qu'un contact fugitif, bien sûr, c'est très très bref, ça dure très très peu de temps, mais en soi, il est suffisant, il doit être suffisant pour opérer dans l'âme justement cette communication de l'amour de notre Seigneur pour Dieu et pour les hommes. Ouais. Tout ce qui est en notre Seigneur, eh bien, passe dans notre âme. Et qu'est-ce qui est dans notre Seigneur? Eh bien, c'est la charité qu'il a pour son Père et la charité qu'il a pour les âmes. Eh bien, cela suffit pour que tout cela, eh bien, passe dans notre âme. Et une seule communion devrait suffire à nous transformer. Ça y est, si vraiment on communiait bien, vraiment, voyez, de cette façon-là, mais on ne devrait plus nous reconnaître après la communion. On dit, bon, eh oui. Et je pense quand même que, j'espère du moins, certains le disent, hein, parfois certaines personnes qui viennent dans notre chapelle, ils disent, bon, les fidèles après la messe, ben, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose en eux, ben, c'est normal, ils ont communié quand même. Encore heureux qu'on voit qu'il y a quelque chose en eux, justement, qu'on ne trouve pas chez les autres quand même. C'est pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais il y a en eux quelqu'un qui est meilleur que tout le monde, oui, ça c'est clair. Ça. Alors ça change les choses, c'est évident, hein. Et peut-être que petit à petit, quand même, ils deviendront meilleurs. On peut l'espérer. Et oui. Et l'Eucharistie, en plus, achève cette incorporation qui a été commencée au baptême. Le baptême nous a incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Eucharistie, eh bien, intensifie, développe, voyez, prolonge cette incorporation en faisant entrer l'âme qui vient de communier, eh bien, dans ce grand mystère de la passion et du sacrifice rédempteur. Ouais. Nous sommes incorporés au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Eucharistie, eh bien, nous fait participer de façon plus intime au sacrifice rédempteur, ouais, vraiment l'acte rédempteur. Ouais. Dans le baptême, il est bien clair que tout est déjà pré-contenu, tout est déjà inscrit, si l'on veut. Mais c'est l'Eucharistie qui provoque, si l'on veut, l'épanouissement de tout ce qui est contenu dans le baptême, oui, par ce contact renouvelé, fréquent, avec notre Seigneur Jésus-Christ et surtout avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais cela, hein, qu'en fait, c'est le sacrifice du Christ, c'est la croix du Christ qui vient jusqu'à nous dans l'Eucharistie. Oui. Et donc, ça nous incorpore à la passion de Jésus-Christ. Alors, c'est immense, cela. Et on peut se poser la question, mais tout cela est bien vrai, tout cela est bien beau, mais est-ce que... Bon, c'est une chose dont nous n'avons pas parlé, mais qui mériterait bien des développements aussi. Est-ce que, finalement, la présence de la Sainte Trinité dans notre âme par le baptême, mais est-ce que ça ne suffit pas? Par le baptême, nous le savons, par la grâce... Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Il y a donc en nous, c'est un dogme de foi, il faut y croire, hein. Il y a en nous bien la présence trinitaire. Le Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes. Le Saint-Esprit demeure dans notre âme, il a été répandu, il nous a été donné, il diffuse la charité dans notre âme. Et la Sainte Trinité est présente, elle demeure dans notre âme. Bon, alors, si la Sainte Trinité demeure dans notre âme, mais la communion, qu'est-ce que ça nous donne de plus? Qu'est-ce que ça ajoute? Est-ce que vraiment c'est si nécessaire que cela de communier? Oui, bon, puisqu'on a déjà la Sainte Trinité. Bien, comparons peut-être un petit peu ce que c'est, ces deux présences. Hein. La présence eucharistique, d'abord ne l'oublions pas, nous donne directement notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son âme, son sang et sa divinité. C'est autre chose que la présence trinitaire. C'est, si l'on peut dire, quelque chose de plus. Il est certain que Jésus-Christ, étant une des trois personnes de la Sainte Trinité, là où il est, toute la Trinité est présente, bien sûr, mais il y a en plus le corps, le sang et l'âme de Jésus-Christ, qui n'est pas dans la présence trinitaire. La Sainte Trinité, eh bien, ne comprend pas en soi le corps, le sang, si vous voulez, l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ, en soi, n'est pas dans la Sainte Trinité, c'est autre chose. Ouais. Alors que l'humanité de Jésus-Christ inclut la Trinité. Donc, en fait, il y a plus, si l'on veut, dans la Sainte Communion que simplement la Sainte Trinité. Ouais. C'est l'humanité et la divinité unies par l'union hypostatique dans la personne du Verbe. Voilà ce qu'il y a dans l'hostie. Bon. Alors que la présence de la Sainte Trinité ben, nous apporte, bien sûr, c'est déjà immense, hein. Ne me faites pas dire que c'est pas inférieur, mais c'est différent. Hein. Les trois personnes divines. Ensuite, la présence de l'hostie, la présence eucharistique, elle est localisée en nous. Elle est localisée par justement, les espèces du pain et du vin. Elle n'est que là où est l'hostie. Et en nous, quand je reçois l'hostie, eh bien, la présence eucharistique, elle est simplement là où est l'hostie. Elle n'est pas ailleurs. Ouais. Alors que les personnes divines, elles, dans la présence de la Sainte Trinité, eh bien, les personnes sont dans tout l'être et dans toute partie de l'être, et dans toute l'âme. C'est clair, hein, la Sainte Trinité demeure dans l'âme. Or, l'âme, là, c'est un problème philosophique, elle est en tout moi. Mon âme, elle n'est pas dans ma tête, mon âme. Hein. Votre âme, elle n'est pas dans votre cœur. Hein. Bon, bien sûr, c'est des façons de figurer les choses, mais notre âme, elle est en tout notre être. Notre âme, elle informe tout notre corps. Elle est donc autant dans les doigts de pied que dans la tête, notre âme. Elle est partout. Et donc, la Sainte Trinité, eh bien, elle est dans tout notre être, notre âme, notre corps, partout. Alors que Jésus-Christ, dans l'Eucharistie, il n'est que là où est l'hostie. Bon. Ensuite, la présence eucharistique, eh bien, elle va disparaître. Elle va disparaître au bout d'un petit moment, quand les espèces sont dissoutes, quand les accidents, donc du pain et du vin, sont dissous par la digestion, eh bien, la présence eucharistique disparaît. Alors que la présence trinitaire, elle demeure aussi longtemps que nous sommes en état de grâce. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme différence? Eh bien, la présence eucharistique nous donne justement notre Seigneur Jésus-Christ, médiateur, et sous les prêtres et victimes à la fois. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'elle donne. Hein. C'est notre Seigneur dans son immolation, donc prêtre et victime. Alors que la présence de la Sainte Trinité, bien simplement, cette présence, si vous voulez, de création et de gouvernement, de providence, vous voyez, qui maintient en nous, qui nous donne la vie, bien sûr, le mouvement, l'être et la grâce. Bon, très bien. Et la présence eucharistique, précisément, en nous donnant, en répandant quand même, puisqu'elle nous donne donc notre Seigneur Jésus-Christ, homme et Dieu à la fois, eh bien, bien sûr, elle répand en nous la grâce, c'est bien évident. Il est clair que nous recevons une grâce tout à fait éminente dans la communion. Et par ce don de la grâce renouvelée, elle permet justement peut-être de mieux saisir la présence de la Sainte Trinité. C'est un moyen peut-être, bien sûr, tout à fait puissant, eh bien, pour mieux précisément nous unir à la présence qui est déjà en nous de la Sainte Trinité. Donc, si vous voulez, elle développe un petit peu en nous, si on peut dire, la communion à cette autre présence que nous portions déjà, présence de la Sainte Trinité. Oui. Et il y a quand même quelques petites différences. La communion eucharistique, si vous voulez, c'est différent de cette présence trinitaire et c'est un moyen très, très, très puissant, justement, peut-être bien, de renforcer cette présence trinitaire et de la conduire, justement, jusqu'à cette union, eh bien, à l'acte de la rédemption. Oui. Être uni à la Sainte Trinité, c'est très bien. Mais s'unir à l'acte de la rédemption, eh bien, c'est peut-être plus nécessaire pour l'actualisation de la rédemption à notre profit. Oui. Car Dieu n'est pas que le Créateur, il n'est pas que celui qui nous donne la grâce, il est aussi le Rédempteur. Et voilà peut-être ce qu'ajoute justement la présence eucharistique à la présence seulement trinitaire. Seulement, si j'ose dire. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Alors, quels sont les effets de l'Eucharistie, les effets de cette communion eucharistique? Eh bien, c'est Saint Jean qui nous le dit, ou du moins notre Seigneur qui nous le dit dans Saint Jean. Et ça, c'est au chapitre 6, nous en avions parlé, hein, ce chapitre où, sur le discours du pain de vie, après la multiplication des pains, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Mais voilà l'effet de l'Eucharistie. Mais je crois que c'est quand même assez colossal, si l'on peut dire. Voilà, la vie éternelle. Donc l'Eucharistie donne la vie. Elle donne notre Seigneur, puisqu'elle est notre Seigneur, donc elle nous donne notre Seigneur, et donc elle opère dans notre âme tout ce que notre Seigneur est venu faire sur la terre. Ça, c'est capital, je crois, à comprendre. Lorsque nous allons communier, finalement, eh bien, je dirais, nous devons avoir le désir que notre Seigneur vienne dans notre âme, eh bien, pour y poursuivre l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Car c'est cela qu'il fait, effectivement. Alors, attention, hein. Quelle est l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre? C'est celle de la rédemption. Alors, c'est au profit de notre âme, au bénéfice de notre âme, mais de quelle façon? Et donc, notre Seigneur, la communion eucharistique, nous introduit nécessairement dans l'univers de la rédemption, dans l'acte rédempteur. Et c'est cette union, justement, eh bien, je dirais à la mission, finalement, de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu s'est incarné, que le Verbe s'est incarné, c'est en vue de l'acte rédempteur, pour glorifier son Père et sauver les hommes. Eh bien, la communion nous fait participer, nous fait communier à la mission de Jésus-Christ. Nous devenons des rédempteurs, non seulement des rachetés, mais également des rédempteurs. Eh oui. Ça, c'est la première chose, alors ça, moi. Méditer tout cela, hein. Et on ne peut pas s'étendre à l'infini là-dessus. Hein. Ensuite, bien sûr, c'est la nourriture et le réconfort spirituel de l'âme. C'est bien clair aussi. Hein. Une nourriture, réconfort de l'âme. Vous savez que saint Thomas d'Aquin, c'est une chose sur laquelle il revient souvent. Cette analogie entre l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce. Hein. La grâce ne détruit pas la nature. Et la grâce épouse, généralement, l'ordre de la nature, oui. Et donc, dans l'ordre de la grâce, eh bien, on retrouve une certaine analogie avec l'ordre de la nature. Donc, dans la nature, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut naître. Ensuite, il faut se nourrir pour se développer. Puis ensuite, il faut se soigner quand on est malade. Oui. Bon, puis ensuite, quand on a un certain âge, on quitte le biberon, puis on prend des beefsteaks, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, tout ça, oui. Bon, il y a tout un développement qui se fait. Eh bien, dans l'ordre de la grâce, c'est la même chose. D'abord, il faut naître, c'est le baptême. Ensuite, eh bien, il faut entretenir cette vie reçue au baptême, c'est la communion. Et puis ensuite, eh bien, il faut guérir nos maladies, il faut réparer les blessures, c'est la confession. Très bien. Et puis ensuite, eh bien, il y a l'âge adulte, si l'on veut, au plan spirituel, enfin, l'âge de raison, quoi, eh bien, c'est la confirmation. Qui vient confirmer, justement, vous voyez, faire passer. Bon, on sort un peu de l'enfance quand même, et puis maintenant, allez en avant, on part au combat, hein, pour confesser la foi et défendre l'honneur de notre Seigneur. Ça, c'est la confirmation qui confirme, le mot le dit bien, qui confirme les grâces reçues jusqu'ici, jusqu'à présent, dans le baptême, dans la confession, dans l'Eucharistie. Et donc, l'effet de l'Eucharistie, c'est de nourrir la vie reçue au baptême. Ensuite, autre effet de l'Eucharistie, bien, nous en avions parlé, là, c'est justement cette union, l'union du corps mystique, l'union de tous en notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. L'union de tous les membres, justement, de tous tous ceux qui communient, justement, l'union, mais cette union en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une chose que l'on enseigne souvent, qu'il est aussi important de bien réaliser, c'est que lorsque nous communions, en fait, ce n'est pas le Christ qui est changé en nous, mais c'est nous qui sommes changés en lui. C'est nous qui sommes assimilés par le Christ. À l'inverse des communions des nourritures naturelles, lorsque nous mangeons naturellement, eh bien, ce que nous avons mangé est digéré et est assimilé par nous-mêmes. Oui, bon, et nous assimilons, donc ce que nous avons mangé devient quelque chose de nous. Ça passe dans le sang, ça passe un peu partout, et donc ça devient quelque chose de nous. Dans la communion, c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse, bien sûr. J'assimile les accidents, d'accord, j'assimile les accidents, les espèces eucharistiques, oui, mais la réalité, c'est elle qui m'assimile. C'est Jésus-Christ, en fait, qui m'assimile et qui m'incorpore à lui, oui, qui m'incruste, si l'on peut dire, en lui. Oui. Et cela pour chacun d'entre nous. Oui. Donc, oui, intensification de l'union du corps mystique. Et donc, un des effets de la communion, eh bien, est nécessairement d'accroître entre nous la charité fraternelle. Car tous, nous ne sommes ensemble qu'un seul pain et un seul corps, parce que nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Vous voyez un petit peu l'accroissement nécessaire de la charité fraternelle. Ce n'est pas possible, puisque nous sommes... intensification de l'union du corps mystique. Et donc, un des effets de la communion, eh bien, est nécessairement d'accroître entre nous la charité fraternelle. Car tous, nous ne sommes ensemble qu'un seul pain et un seul corps, parce que nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Vous voyez un petit peu l'accroissement nécessaire de la charité fraternelle. Ce n'est pas possible, puisque nous sommes finalement les membres les uns des autres. Nous sommes tous les membres du même Christ, de l'unique Christ. Comment un membre peut-il taper sur un autre membre? Ce serait idiot, moi, je ne sais pas, moi. C'est pas pensable. Vous voyez, d'un coup, on se met à se taper dessus comme ça. Bon, on peut le faire, mais ce n'est pas... Et donc, intensification, accroissement de la charité fraternelle. C'est un effet quasiment nécessaire de la communion, avec en plus un autre effet, donc ça serait le quatrième effet. Eh bien, c'est l'effacement du péché. Justement, puisqu'elle donne la vie, l'Eucharistie, nécessairement également, eh bien, efface les obstacles au péché. Non pas les péchés mortels, bien sûr, cela, il faut pour les effacer, il faut la confession sacramentelle, mais les péchés véniels, qui sont des obstacles à la vie, qui sont des empêchements, des freins, des petites paralysies qui se mettent sur notre âme, etc. Et donc la communion efface justement ces péchés véniels de par l'inflammation, si l'on veut, de la charité qu'elle provoque. Une communion bien faite accroît en nous la charité. Et cette charité, eh bien, je dirais, un peu comme une fournaise, oui, qui se développe, eh bien, pulvérise, eh bien, toutes les petites souillures, les péchés qui étaient à la surface. Oui. Et donc, effectivement, c'est un des effets de la communion, eh bien, d'effacer les péchés véniels. Oui. Si on ne sait pas confesser, il est mieux, bien sûr, de communier dans parfait état de grâce, mais enfin, bon, parfois difficile de n'avoir aucun péché véniel à se reprocher, mais à ce moment-là, la communion bien faite, eh bien, peut nous obtenir l'effacement, le pardon de ces péchés véniels. Ouais. Ceci est donc enseigné par le Concile de Trente aussi, nous l'avions vu, je crois, dans son... qu'il nous dit... Il a voulu que ce sacrement fût reçu comme l'aliment spirituel des âmes, donc aliment spirituel, qui nourrisse et fortifie ceux qui vivent de la vie, de celui qui a dit, etc., et qu'il fut l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Vous voyez ? L'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes, donc qui pulvérise les fautes quotidiennes, les fautes vénielles, et nous préserve des péchés mortels. La meilleure prévention du péché mortel, justement, mais c'est la communion. En soi, quelqu'un qui communierait fréquemment et quotidiennement, normalement, il se met à l'abri du péché mortel. Et s'il, bien sûr, s'il communie comme il convient, c'est évident. Il a voulu en outre que ce fût un gage de notre gloire future et de notre félicité éternelle. Donc, troisième effet, c'est la vie, cela, si vous voulez, vie éternelle. Et enfin, symbole de cet unique corps dont lui-même est la tête et auquel il veut que nous, ses membres, nous soyons étroitement attachés par les liens très serrés de la foi, de l'espérance et de la charité. Oui. Donc voilà tous les effets d'une communion bien faite. Et tout cela est tout à fait bien exprimé dans ces très très belles prières. Très très belles prières que fait le prêtre avant sa communion. Ah, il serait à désirer que les fidèles aient... Bon, non. Je trouve que trop de fidèles n'ont pas de missel, je trouve, moi, vous voyez. Bon, enfin, c'est pas une obligation, je sais bien, mais il y a des trésors dans ces missels. Il y a des prières qui sont des merveilles et auxquelles on fait pas attention. Et c'est trois prières que fait le prêtre avant la communion. Bien sûr, on dit c'est le prêtre qui les fait, mais le fidèle peut les faire aussi. Hein. C'est pas du tout défendu, au contraire. C'est ce que le prêtre demande, eh bien, je pense qu'il faut que les fidèles le demandent avec lui. C'est évident, nous désirons tous les mêmes biens. Voyez. Donc il ne faut pas laisser le prêtre prier tout seul à l'autel. Voyez. Je crois qu'au contraire, il faut appuyer, si on peut dire, sa préparation à la communion, eh bien, sur les mêmes prières que fait le prêtre. Voyez. Les prières que l'Église fait faire au prêtre, mais c'est les plus belles prières que vous puissiez faire pour vous préparer à la communion. Ça vaut toutes les petites dévotionnettes que vous avez dans tous les trucs. C'est très bien tout ça, je ne suis pas contre, mais la liturgie, il n'y a rien de plus beau. Ces prières ont été inspirées par le Saint-Esprit, bonne mère. Qui peut prétendre faire mieux? Dites-moi. Même les grands saints qui ont composé toutes ces belles prières que vous connaissez par cœur, ils sont d'accord avec moi. Hein. Ils n'ont jamais eu la prétention de faire mieux que le Saint-Esprit. Simplement, ben, d'aider ceux qui, peut-être ceci, cela. Bon, mais je pense que si on est capable, eh bien, de se servir des prières de la liturgie, je pense que vous en êtes capable, mais je pense que c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Car il y aurait bien des choses à dire là-dessus, hein. C'est vrai. Combien de fidèles, là je déborde un peu du cadre, mais c'est pas grave, font attention, par exemple, à l'antienne de communion que le prêtre récite, donc, après la communion, il a distribué la communion, il fait les ablutions, il purifie, tout cela, bon, il replie tout, très bien, ensuite, il lit une antienne de communion, et puis pendant tout le monde est là, tout le monde dit, Jésus, je vous aime, etc., c'est très bien, mais pendant ce temps-là, la liturgie de l'Église continue à se dérouler, l'Église rend grâce à Dieu, et les fidèles sont là, mon petit Jésus, je vous aime. Bon, c'est bien, je veux bien, mais je pense que ce serait beaucoup mieux que les fidèles, eh bien, rentrent, je dirais, dans l'action de grâce de l'Église. C'est la plus belle des actions de grâce. Ensuite, le prêtre récite ou chante la post-communion. Il y a des trésors, des merveilles dans ces post-communions. C'est des prières d'une beauté, d'une densité, d'une profondeur extraordinaire. Combien de fidèles les lisent? Combien de fidèles les prient? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, enfin, voilà. Fermons la parenthèse. Mais donc, je disais, ces trois prières avant la communion, vous voyez. La première, tout cela, bon, enfin, on en parlera peut-être une autre fois, sur cette question de la liturgie un peu, ouais, et qui fait suite un peu, justement, au Pater Noster, le prêtre, ensuite, c'est la fraction de l'hostie, etc. Ensuite, l'Agnus Dei, Dona Nobis Pacem, et ensuite, il y a une prière pour la paix. Oui, tout cela s'enchaîne de façon très, très logique. Et on prie pour la paix de l'Église. Hein, d'abord, la première communion que fait le prêtre, eh bien, c'est pour l'Église. Vous voyez, la communion. Premier effet de la communion, eh bien, c'est l'union de l'Église. Oui, la paix de l'Église. Si tous les fidèles communient, eh bien, le fruit, ça va être la paix de l'Église. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce que le prêtre demande. Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis. Donc, Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à vos apôtres, je vous le donne, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Et daignez, selon votre volonté, la pacifier et la rassembler dans l'unité. Oui, voilà ce qu'on demande d'abord, oui, ce rassemblement, donc l'unité et la paix de l'Église. Voilà le premier effet de la communion. Oui. Et ensuite, bon, deux autres prières, là, qui sont plus orientées vers les besoins même des fidèles, les besoins du prêtre et puis ceux des fidèles, oui, etc. Cette deuxième prière est une merveille de théologie. Hein. Toute la Sainte Trinité est là, d'abord. Oui. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Donc là, on s'adresse à l'hostie, on s'adresse à notre Seigneur. Hein. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, par la volonté du Père et avec la coopération de l'Esprit-Saint, donc la volonté du Père et la coopération de l'Esprit-Saint, donc c'est l'œuvre trinitaire, oui, par votre mort, avez vivifié le monde, voilà, eh bien, libérez-moi par ce corps et ce sang, par votre corps et votre sang très saint, de toutes mes iniquités, la purification des péchés, et de tous les maux, voilà, donc purification. Et faites, fac metuis semper inerere mandatis, et faites que j'adhère toujours à vos commandements, oui, donc. Union, vraiment, à la volonté du Christ, oui. Cette union de l'âme à l'âme du Christ. Donc, j'adhère à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous. Et donc, union. Oui. Voilà ce que l'on demande. Qui nous purifie et qui nous unisse à lui au point, eh bien, qu'on ne puisse jamais, eh bien, désobéir à sa volonté et se séparer de lui. C'est magnifique, ça. Très, très beau. Puis enfin, la troisième prière. Que la perception de votre corps, Seigneur Jésus-Christ, que moi, indigne, je présume que comment traduire ça ? En latin, c'est beaucoup mieux, mais enfin, que malgré mon indignité, j'ose recevoir, je crois, c'est comme ça que traduisent plus ou moins les missels, eh bien, ne me viennent pas en jugement et en condamnation. Qu'elle ne soit pas finalement ma condamnation, cette perception que j'ose faire. Mais, que pour votre piété, votre bonté, qu'elle me serve un peu de renfort, si on veut, de réconfort de l'esprit et du cœur, oui, et du corps, oui, donc qu'elle me donne des forces, oui, pour l'âme et pour le corps, et pour recevoir la récompense, oui, donc la vie éternelle, la gloire, donc fortification ici-bas, la force et la vie ici-bas, mais également, bien sûr, la récompense éternelle, donc la vie éternelle. Voilà, tous les effets de l'Eucharistie sont là. Oui. Eh oui, tout cela est bien beau. Et regardez quelques exemples de saints. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, bien sûr, on ne peut pas quand même ne pas parler de lui. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il célébrait la messe, on dit que souvent, bon, d'abord il avait des extases, on le voyait pleurer également pendant la messe, bon, parce qu'il comprenait, il pénétrait un peu le mystère qu'il célébrait. Et puis cet événement qui est raconté par son biographe, là, c'est les frères qui avaient vécu avec lui. Un jour que frère Thomas célébrait la messe dans la chapelle de Saint-Nicolas de Naples, il fut bouleversé par une extraordinaire émotion. Et après la messe, il ne voulut plus rien écrire ni rien dicter. Fini, terminé. Il avait célébré la messe. Il avait 48 ans, 49 ans, lui quand même, force de l'âge, etc. Enfin, bon. Et donc, il suspendit son entreprise au début du traité de la pénitence, dans la troisième partie de la somme. Et quand frère Reynald s'en rendit compte, il demanda, « Mais père, pourquoi abandonnes-tu une œuvre si grande, commencée pour la louange de Dieu et l'illumination du monde ?»« Enfin, quand même, quoi. Vous êtes bien parti, allez-y, finissez, quoi. » Non, je ne peux plus. Alors, frère Reynald, craignant que le surmenage de l'étude ne l'ait égaré, voulut insister. Il dit, bon, il est un peu fatigué, mais enfin, on va en pousser un peu, on va y arriver, quoi. Et non, non, non. Et frère Thomas répondit, « Reynald, je ne peux plus, car tout ce que j'ai écrit me paraît de la paille. » Et ayant répété à peu près ces mêmes mots, il ajouta, « Au prix de ce qui m'a été montré et révélé. » Voilà. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il est le seul à le savoir. Hein, mais dis-moi, après ce que j'ai vu, non, c'est fini. Tout ce que je dis, c'est de la paille. Et pourtant, ce qu'il écrit, c'est pas mal. Hein. Alors, si ça, c'est de la paille, hein. Qu'est-ce que ça doit être là-haut, hein? Et oui. Et puis, la mort de saint Thomas aussi, oui, c'est vraiment saint Thomas d'Aquin, c'est bien connu, je pense, vous le savez, en docteur eucharistique, si l'on veut, son office du Très-Saint-Sacrement, c'est une merveille, ses prières à la Sainte Eucharistie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et sur la fin de sa vie, vous savez donc qu'il a quitté Naples pour se rendre à Lyon, au Concile de Lyon, et puis qui n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Il fut surpris par la maladie et comprenant donc que son heure était venue, eh bien il se fit conduire chez les cisterciens de Fossanova. Si vous allez un jour en Italie, allez visiter cette très belle abbaye de Fossanova. C'est là qu'il est mort. Donc, au bout de quelques jours, donc, il voulut précisément recevoir eh bien, le viatique, recevoir les derniers sacrements. Quand on le lui porta, il s'agenouilla pour le saluer. C'est tout à fait digne de méditation pour ceux qui prétendent qu'il faut recevoir le corps du Christ debout. Ben, saint Thomas, lui, mourant, a voulu s'agenouiller pour le recevoir. Hein. Donc il s'agenouilla pour le saluer, l'adorer, avec les mots d'une longue et admirable adoration lui rend de gloire. Et avant de recevoir le corps, il dit, « Je te reçois, prix de la rédemption de mon âme. Je te reçois, viatique de ma pérégrination, viatique de mon voyage. Ouais. » En gros, je te reçois, toi qui m'as fait voyager ici-bas. « Pour l'amour de qui j'ai étudié, veillé, travaillé, prêché, enseigné. Je n'ai jamais rien dit contre toi, ou si je l'ai fait, c'est en l'ignorant. Et je ne suis pas obstiné dans mon sens, mais si j'ai mal dit quelque chose, je laisse tout à la correction de l'Église romaine. » Voilà, la dernière communion de saint Thomas d'Aquin. Oui, très belle prière. Et oui. Alors nous pouvons ajouter peut-être, si vous voulez, quelques considérations maintenant, peut-être un peu plus disciplinaire sur la communion, qui est sur le rite de la communion. Le Concile de Trente nous l'a dit, nous avons vu ça tout à l'heure, hein, à savoir que c'était la coutume que les laïcs, il a toujours été d'usage dans l'Église de Dieu que les laïcs reçussent la communion des prêtres. Que les laïcs reçussent la communion des prêtres. Bon, c'est l'usage, effectivement. Bon, cela dit, ça n'a pas été toujours un usage respecté. Je sais bien qu'un jour, je vous ai dit ici par boutade que j'étais prêt à vous donner la communion dans la main. Si vous étiez prêt à partir au martyr, bon, alors ça m'a attiré des réflexions tout à fait aimables, enfin peu importe, voilà. Je dois être un peu moderniste sur les bords sans doute, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Moi, lisons un peu la discipline de l'Église sur ce point-là. Bon, il est vrai que l'usage le plus important a toujours été de remettre l'hostie aux communions sur la langue et non pas sur les lèvres. On ne communie pas sur les lèvres mais sur la langue, sur les lèvres c'est plus compliqué. Sur la langue, bon. Mais cela dit, il y a eu quand même des cas où, effectivement, ben, ma foi, les fidèles recevaient la communion dans la main, au début de l'Église. Et la chose est tout à fait établie de manière historique et il n'y a rien d'inconvenant à le dire. Il ne s'agit pas de vouloir revenir précisément aux usages primitifs, mais c'est un usage qui a été en vigueur, bon, pendant quand même... C'est pendant un certain temps, oui, voici ici ce que dit un auteur, là, le père Guire. Le rite de la distribution de la communion aux clercs et aux laïcs était autrefois très différent selon les temps et les lieux. Pendant plusieurs siècles, les fidèles reçurent la Sainte Eucharistie sur la main droite, disposée sur la gauche en forme de croix. Ils se tenaient debout, mais dans un maintien respectueux, bien sûr. On ne communiait sous les deux espèces que pendant la messe, et depuis le VIe siècle, on buvait le précieux sang par le moyen d'un chalumeau. Ouais. Bon. Oui, donc il y a tout un tas de disciplines qui ont varié. Bon, ben voilà, c'est tout. Au Moyen Âge, on versait souvent même une partie du précieux sang dans un grand calice rempli de vin, etc. Dans quelques églises, on trempait la Sainte Hostie dans le calice. Oui, donc il y a tout un des rites un peu différents suivant les lieux. Oui. Et à partir du XIIIe siècle, la communion sous les deux espèces disparaît peu à peu. Elle ne va subsister plus. Bon, je ne pense pas que ça existe encore, enfin je ne sais pas, mais que pour le diacre et le sous-diacre à la messe solennelle célébrée par le pape. Bon, je ne sais pas très bien ce qui se passe maintenant. Enfin. Oui, donc une discipline qui a varié. Oui. Et dans un. Ici, alors, quelques auteurs, quelques pères de l'Église en parlent. Saint Cyril de Jérusalem, par exemple, parle justement de cette coutume de recevoir la communion dans la main. Et certains précisaient même qu'en Occident, les femmes devaient couvrir leurs mains d'un linge blanc. Ils recevaient donc l'hostie dans un linge blanc qui recouvrait leurs mains. Et certains même emportaient ensuite à domicile l'Eucharistie pour se communier les jours suivants, quand la messe n'était pas célébrée. Donc ça s'est pratiqué. Je ne dis pas que ça doit se pratiquer maintenant, attention, mais ça s'est pratiqué dans l'Église. Hein. Bon, puis petit à petit, bien sûr, les choses se sont mises en place pour la discipline actuelle. Voici, par exemple, ici, ce que dit Saint Basile. Bon, Saint Basile, quand même, bon, c'est pas moderniste. Hein. IVe siècle, en 372, Saint Basile, que dit-il ? La communion et participation quotidienne au corps sacré et au sang du Christ est chose bonne et utile. Elle est conforme à la claire parole du Christ. Bon, très bien. Quant à nous, nous communions quatre fois chaque semaine, le dimanche, le quatrième jour, le jour de la parasève et le samedi. Bon. Nous y agitons d'autres fois s'il y est fait mémoire d'un saint. Dans les temps de persécution, donc là c'est un cas particulier, dans les temps de persécution, en l'absence de prêtre ou de diacre, on est contraint de communier de sa propre main. Il est inutile de montrer qu'il n'y a dans cette coutume rien d'excessif, étant donné qu'une longue pratique la fonde par les faits. Bon, c'est une longue pratique, bon, voilà. Tous ceux qui mènent dans les déserts la vie solitaire, là où ils n'ont pas de prêtre, conservent chez eux la communion et se la donnent à eux-mêmes. À Alexandrie, en Égypte, chaque fidèle laïc conserve chez lui le plus souvent la communion et la prend de sa main comme il le veut. Une fois, en effet, que le prêtre a accompli et donné le sacrifice, celui qui l'a reçu tout entier en une fois, s'il ne le consomme que jour par jour, est amené à penser qu'il le prend et le reçoit de celui qui le lui a donné, etc. Bon. Vous voyez, donc, c'est une coutume qui a existé dans l'Église. Bon, il est clair que l'Église, ensuite, petit à petit, a fait disparaître cette coutume. Et qu'il faut s'en tenir à la discipline de l'Église, tout simplement. Oui, c'est une question disciplinaire, cela. Bon, une question de prudence, de respect, de l'Eucharistie. Alors, suivant les mœurs, je dirais, l'esprit de foi, suivant tout un tas de choses, eh bien, la discipline, effectivement, a varié. Et il est vrai que dans des siècles où la foi s'est peut-être un peu refroidie, je pense qu'il faut justement redoubler de précautions, justement, dans le respect dû à la Sainte Hostie. C'est bien clair, cela. Hein. C'est pourquoi je vous disais que si vous étiez au bord de l'arène, prêt à être dévoré par des lions, là, je serais... Bon, non, je le répète pas parce que... Bon, c'est autre chose, voilà, tout simplement. C'est un autre cadre. Oui. Et on entend parfois, vous voyez, sur cette question de la communion dans la main ou communion, distribution de la communion... par des noms consacrés, on entend parfois des arguments qui, à mon sens, ne sont pas les vrais arguments. Hein. On dit, mais il faut avoir les mains consacrées pour donner la communion. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas le véritable argument, vous voyez, pour donner la Sainte Communion. Ce n'est pas le fait d'avoir les mains consacrées, c'est le fait d'être ministre du sacrifice. Seul le ministre du sacrifice peut donner le fruit du sacrifice. Vous voyez. C'est pourquoi, par exemple, le diacre peut donner la communion. Or, il n'a pas les mains consacrées. Le diacre n'a pas les mains consacrées, seul le prêtre a les mains consacrées. Le diacre n'a pas les mains consacrées, et pourtant il peut donner la communion. Alors, scandale ? Non, pas scandale, parce que le diacre, il est co-ministre du corps et du sang du Christ. Il participe véritablement à l'acte sacrificiel, il ne le réalise pas, mais il accompagne le prêtre dans l'acte sacrificiel. Donc, il participe, oui, au sacrifice, donc il peut donner la Sainte Communion. Voilà pourquoi. Mais en dehors de cela, en dehors du prêtre et du diacre, personne ne participe à l'acte du sacrifice, ne réalise, disons, le sacrifice, et donc personne d'autre ne peut donner la Sainte Communion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Donc je pense que si on veut défendre cette distribution de la Sainte Communion par le prêtre ou le diacre, il faut avoir le bon argument, le véritable argument, la véritable raison. C'est parce qu'ils sont ministres du sacrifice. Les autres, les fidèles, les religieux, religieuses, ou tout ce qu'on peut imaginer, n'étant pas ministres du sacrifice, ne peuvent pas donner les fruits du sacrifice, puisqu'ils ne l'ont pas réalisé. Et seul peut donner les fruits du sacrifice ceux qui l'ont réalisé. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et c'est ce qui est dit dans dans l'ordination sacerdotale, lorsque l'évêque consacre les mains du prêtre, il ne dit pas que c'est pour le rendre capable de toucher l'Eucharistie, non. Non, mais c'est parce qu'il va devenir ministre du sacrifice. Ouais, voilà. Daignez, Seigneur, consacrer et sanctifier ses mains par cette onction et notre bénédiction, afin que tout ce qu'elles béniront soit béni, et que ses mains soient capables de bénir, et que tout ce qu'elles consacreront soit consacré et sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà pourquoi on consacre, ouais, les mains du prêtre, pour qu'il devienne capable de bénir et de consacrer. Bon, il en est capable, si vous voulez, mais que ses mains, eh bien, soient pures et dignes pour cela, tout simplement. Ouais. Bon. Alors, il y a autre question disciplinaire, hein, dont le Concile de Trente a parlé, là. C'est la question de la communion sous une ou deux espèces. Vous voyez, bon, alors, là aussi, il y a bien des discussions, hein, qui ont eu lieu même dans l'Église, hein, pendant très très longtemps. Hein. Car si on se réfère au précepte de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit, hein, le discours sur le pain de vie, hein, celui qui mange et boit, il faut manger et il faut boire. Ben, oui. Prenez la Sainte Écriture. Quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur. Non, ça c'est Saint Paul, pardon. Oui, bon, il faut manger et boire. Allez voir ce que dit. Je l'ai perdu, mais enfin, vous le retrouverez. Voilà, c'est ça, non. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, conclusion logique, il faut manger et il faut boire. Donc, il faut communier sous les deux espèces. Oui. Et pourtant, le Saint Concile de Trente nous dit... Le Saint-Concile, instruit par l'Esprit-Saint, guidé par le jugement et l'usage de l'Église, déclare et enseigne qu'aucun commandement divin n'oblige les laïcs et les clercs qui ne célèbrent pas à recevoir le sacrement de l'Eucharistie sous les deux espèces, et qu'il n'y a aucune raison de douter, sans léser la foi, que la communion sous une seule espèce suffise au salut. Donc, le Saint-Concile de Trente dit « Attention, il ne faut pas prendre cela pour un précepte formel » de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que le Christ, à la dernière scène, ait institué et distribué à ses apôtres ce vénérable sacrement sous les espèces du pain et du vin, cette institution et ce don n'ont cependant pas pour but d'obliger tous les chrétiens à recevoir l'une et l'autre espèce en vertu d'un commandement du Seigneur. On ne peut pas non plus conclure du discours du chapitre 6e de Saint Jean que la communion sous les deux espèces est un commandement du Seigneur, de quelque manière qu'on le comprenne, d'après les interprétations diverses des pères et des docteurs. Vous voyez, il y a la tradition de l'Église, l'interprétation qu'en ont donné les pères de l'Église, qui avaient reçu peut-être eh bien, des traditions des apôtres, oui, qui complètent justement, la lettre de l'Évangile. Car celui qui dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous », bon, oui, donc les deux, dit également « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ». Ah, vous voyez, donc il ne faut peut-être pas le prendre strictement à la lettre, oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et celui qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », dites encore, le pain que je donnerai est ma chair pour le salut du monde. Donc là, il ne parle que du pain. Vous voyez ? Donc, attention, avant de donner une interprétation stricte, vous voyez, du discours sur le pain de vie. Qui mange ce pain vivra éternellement, dit-il encore en Saint Jean. Vous voyez ? Donc, voilà, attention. Donc, il faut voir simplement la tradition de l'Église, vous voyez ? Et si vous avez bien compris hein, ce que nous avons dit jusqu'ici, eh bien, si la présence réelle, s'il y a présence réelle dans l'hostie ou dans le calice, eh bien, prendre l'un, c'est recevoir les deux. Et corps et sang ne sont plus séparés. Ils le sont mystiquement, nous l'avons vu l'autre fois, pour l'immolation, mais ensuite, eh bien, quand on reçoit l'hostie, on reçoit le corps et le sang. Ils ne sont pas réellement séparés dans l'hostie. Et donc, c'est au fur et à mesure eh bien, que le dogme va s'expliciter précisément, eh bien, que l'usage de l'Église va petit à petit se modifier. Au fur et à mesure que l'Église précise la nature de l'Eucharistie, le dogme de la présence réelle, de la transsubstantiation, etc., eh bien, dans le même temps, eh bien, l'usage de l'Église eh bien, va suivre, si l'on peut dire, cette explicitation dogmatique. La séparation des deux espèces est essentielle au symbolisme du sacrement en tant qu'il nous communique les fruits de l'acte rédempteur. Il est essentiel, ce symbolisme, mais communier sous une seule espèce eh bien, préserve sans aucune difficulté, ce même symbolisme, puisqu'il conserve l'aspect nutrition, nous sommes nourris, et également l'aspect unité de l'Église. Oui, tout est préservé par la communion à une seule espèce. Donc, la question est purement disciplinaire. C'est tout. Communion sous les deux espèces, c'est uniquement une question de discipline. Et il est clair que dans l'Église, il est vrai que dans l'Église, eh bien, jusqu'au XIIe siècle à peu près, la communion sous les deux espèces a été pratiquée de façon assez répandue. Communion sous les deux espèces. L'usage du pain seul, lui, était réservé pour l'usage qui se faisait en dehors des églises, pour les malades, pour les absents, ou bien la réserve, bien sûr, quand on a commencé à avoir la sainte réserve. Et il est évident que c'est plutôt le pain que l'on va conserver, enfin le pain eucharistique, plutôt que le vin eucharistique qui se conserve quand même plus difficilement que le pain, un risque de dégradation des espèces. Oui. Alors que d'un autre côté, eh bien, on voit aussi l'usage du vin seul pour les enfants, pour les petits-enfants. Oui, quand on communie les petits-enfants, souvent, on leur donnait justement la communion sous la forme du vin. Plus facile peut-être à déglutir qu'une hostie qui parfois est peut-être un peu difficile à avaler pour les tout-petits-enfants. Oui, bon. Même à partir du 7e siècle, on voit dans certains endroits, mais ce sera condamné plutôt, ce qu'on appelait l'intictio panis, oui, donc le pain trempé dans le vin. Oui, ça a été condamné, ceci, au 11e siècle, 12e siècle, par des conciles locaux. Oui. Ça se pratiquait, mais ça a été condamné. Oui. Et c'est à partir du XIIIe siècle, pratiquement, bien que l'usage actuel a prévalu et s'est imposé à peu près partout, donc donner l'hostie sous la forme du seul pain. C'est cet usage, d'ailleurs, qui était, par exemple, la messe que nous célébrons, enfin, ce n'est pas une messe, mais enfin, ce qu'on appelle la messe des pré-sanctifiés, donc la liturgie du Vendredi Saint, et ça partout, eh bien, c'était uniquement sous la forme du pain, l'hostie, le rite de la communion pour le vendredi saint, eh bien, c'était uniquement toujours hein, sous la forme de l'hostie et du pain. Donc, évolution, je vous dis, ça, la question est purement disciplinaire. Et le Concile de Trente, a donné, vous avez cela plutôt dans le catéchisme du Concile de Trente, qui vous rappelle, qui vous donne un peu les raisons pour lesquelles, cinq raisons, pour lesquelles, eh bien, précisément, il est mieux de ne communier que sous une seule espèce. D'abord, on devait trembler de répandre à terre le sang de Jésus-Christ, donc crainte de renverser simplement du sang. Et il ne semblait guère possible d'éviter cet accident quand on aurait à distribuer ce sang divin au milieu d'une grande multitude de peuples. Bon, danger de profanation. Ensuite, comme l'Eucharistie doit toujours être en réserve et à la disposition des malades, il était bien à craindre que l'espèce du vin conservé un peu longtemps ne vînt à s'aigrir. Bon, difficulté de conserver, donc. Troisième raison, tout à fait, c'est bon sens tout cela, un très grand nombre de personnes ne peuvent supporter ni le goût, ni même l'odeur du vin. Mais il y a des gens que le vin indispose, donc on ne peut pas leur donner l'Eucharistie sous la forme d'un aliment qui les indispose. Bon, ça dépend des régions, ça dépend peut-être des tempéraments, mais enfin. Par conséquent, pour que la santé du corps n'eût pas à souffrir de ce qui se donnait pour le salut de l'âme, il ne s'agit pas de tuer les corps pour faire vivre les âmes, voyez. L'Église a très sagement ordonné que les fidèles ne prendraient que l'espèce du pain. Ajoutez à toutes ces raisons, donc ça c'est la quatrième, ajoutez à toutes ces raisons que beaucoup de contrées ne produisent absolument point de vin et que l'on peut s'en procurer ailleurs qu'à très grands frais et qu'en en faisant venir de fort loin et par des chemins très difficiles, bon, certaines régions, donc difficultés peut-être, de se procurer du vin, donc on en trouve, mais bon, ce n'est pas la forme la plus adéquate pour distribuer oui, l'Eucharistie aux fidèles. Il faut quand même moins de vin pour la célébration de la messe et la communion qu'il ne faut d'hostie aujourd'hui, grâce à Dieu. Et enfin, cinquième raison, et c'est là ce qui importe le plus dans cette affaire, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, d'extirper l'hérésie de ceux qui prétendaient que Jésus-Christ n'était pas tout entier sous chaque espèce. Et voilà la raison peut-être la plus importante. Extirper cette hérésie, ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas tout entier dans l'hostie, sous l'espèce du pain. Oui. Que celle du pain contenait seulement le corps séparé du sang, et celle du vin seulement le sang séparé du corps. Et dès lors, pour exposer aux yeux de tous la vérité catholique d'une manière plus sensible, on ne pouvait rien arrêter de plus sage que d'introduire la communion sous la seule espèce du pain. Et ça, c'est sans doute la raison la plus importante, voyez, justement pour défendre la foi dans la réalité de la présence réelle, voyez, sous l'espèce du pain. Voilà. Une dernière petite conclusion, encore quelques minutes quand même. Voyez. L'exemple de Saint François d'Assise, oui, bien sûr, c'est Saint François d'Assise qui n'a jamais voulu être prêtre, hein, Saint François d'Assise, vous le savez, il était diacre, il n'a jamais voulu recevoir le sacerdoce, il s'en jugeait indigne. Mais il conjurait les chefs des peuples de recevoir avec amour le très saint corps et le sang très saint de notre Seigneur Jésus-Christ en sa sainte mémoire. Et son biographe, la Thomas de Celano, nous dit qu'il brûlait d'amour jusqu'au moelle pour le sacrement du corps du Seigneur. Il n'avait pas voulu être prêtre, mais il aimait l'Eucharistie. Hein. Et il demeurait frappé de stupeur devant cette miséricorde pleine de charité, et surtout devant cette charité si miséricordieuse. Ne pas entendre chaque jour au moins une messe, lorsqu'il n'avait pas d'empêchement, lui aurait paru une faute grave. Il communiait souvent et si pieusement que sa piété se communiquait aux autres. Il apportait à cette action si sainte tout son recueillement, faisait à Dieu le sacrifice de tous ses membres, et en recevant l'agneau immolé, il immolait son esprit dans le feu qui brillait toujours sur l'autel de son cœur. Il suppliait ses frères de témoigner toutes sortes de respect et d'honneur au très saint corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui tout ce qui était dans le ciel et sur la terre a été pacifié et réconcilié avec le Père Tout-Puissant. Frères qui sont prêtres, ils demandent qu'ils célèbrent avec une intention sainte et pure, non pour un motif terrestre, etc. etc. Bon. Et sa dévotion pour l'Eucharistie lui faisait rendre aux prêtres des honneurs capables à chaque instant de les bouleverser. Il disait souvent, « S'il m'arrivait de rencontrer en même temps un saint descendu du ciel, voilà, et un prêtre, et un pauvre petit prêtre, disait-il, je commencerai par rendre mes hommages au prêtre et je me précipiterai pour lui baiser les mains. Je dirai, attendez, Saint Laurent, car ses mains touchent le Verbe de vie et possèdent un pouvoir surhumain. » Voilà le respect que les saints, cette adoration qu'ils avaient pour l'Eucharistie, et qui se traduisait et s'achevait en respect pour les pauvres petits prêtres dont les mains sont consacrées pour toucher le Verbe de vie. Et oui, ainsi soit-il. À moins qu'il y ait des questions à poser. Oui.
Je le sais parce qu'un de mes proches me le dit.
Eh oui, non mais c'est vrai. Oui.
Alors, qu'est-ce que je peux répondre?
Que c'est vrai, c'est de la paille à côté de la gloire du paradis. Tout ce que diront les plus grands saints ici-bas sur Dieu, ce sont des balbutiements à côté de ce que nous verrons dans l'éternité. C'est vrai, ça? Ah, ça, c'est vrai. Ce que nous verrons dans l'éternité, c'est... Saint Paul dit que c'est ineffable. On ne peut pas le dire. C'est ça dont il s'agit là. Quand saint Thomas d'Aquin dit c'est de la paille à côté de ce qui m'a été donné de connaître, de voir. Or, qu'est-ce qu'il avait vu? Une révélation de, je ne sais pas moi, de quoi, mais de l'éternité. Hein. Alors ça c'est clair, ça. Alors là, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce que peut dire même l'Église ici-bas, ça reste un langage humain. Hein. C'est qui est à notre portée, qui essaie de traduire en mots humains quelque chose qui nous dépasse tous, hein, et qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas imaginer. Alors ça, d'accord, oui, c'est vrai. Merci. Mais de là à dire que c'est de la paille et que Luther a fait mieux ou Hans Kung a fait mieux, ça, c'est un autre problème. Là. Non, là, ça ne marche pas, ça. Enfin, c'est peut-être dans ce sens-là que l'entendent vos contradicteurs, non, je ne sais pas, mais enfin... Je sais pas, mais enfin, eh oui.
Pendant la messe, on reçoit deux fois l'absolution.
Et c'est deux fois
l'absolution qu'on reçoit par rapport à l'effacement des péchés qu'on reçoit par la communion. Comment est-ce qu'il faut regarder ces
Mais il y a la première... ce sont des absolutions, des petites absolutions. Hein. Ce n'est pas l'absolution sacramentelle, quand même. C'est des sacramentaux, ça, si vous voulez. Hein. Donc, pour disposer d'abord l'âme... Vous voyez ce qui est... Comment dire ça? Il s'agit de disposer l'âme d'abord à bien entendre la messe. Et ensuite, il faut la disposer à bien communier. En soi, ce sont les mêmes dispositions, mais il est possible que l'âme se soit un peu relâchée pendant la messe, ça dure, etc. Alors, il n'est peut-être pas mauvais, peut-être, de lui redonner un peu de vigueur, de pureté, vous voyez, si elle s'est un petit peu affaiblie dans sa ferveur, vous voyez. Oui, c'est pas tellement, je dirais, une absolution des péchés qu'on aurait pu commettre pendant la messe, mais des faiblesses, des négligences, etc. Oui. Bon, il a pu y avoir des péchés, malheureusement, aussi. Ça, c'est tout à fait possible, également. Oui. Entre le début de la messe et la communion, on peut commettre des péchés. Des péchés même en pensée, en désir, en tout ce qu'on peut imaginer, hélas. Hein. Et on ne sera jamais trop pur pour communier, hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communier parce qu'on ne sera jamais assez pur, hein, ça c'est clair, mais bon, se purifier le plus possible. Et après, l'Eucharistie achèvera ce travail de purification. Et là, la meilleure, comment dire ça, comment dire ça, oh là là. Dans la communion, le plus important, je vais vous scandaliser encore une fois, mais c'est pas grave, c'est enregistré encore, non, sinon je vais me faire traiter encore de tous les noms, là. On vous prêche souvent l'action de grâce, la nécessité, et on a raison, hein, attention, je ne me dédie pas. C'est sûr qu'il faut normalement, lorsqu'on a reçu quand même le corps et le sang de notre Seigneur, je crois que ça justifie hein, qu'on reste un petit moment, un petit peu en adoration pour le remercier, etc. Bon, ça c'est bien clair. Hein. Mais il faut bien vous dire que l'Eucharistie produit ses fruits au moment où on la reçoit. C'est à ce moment-là qu'elle produit ses fruits. Le reste, l'action de grâce, eh bien, je dirais que c'est une suite logique, mais qui en fait n'augmente pas les fruits que l'on a reçus au moment de la communion. Et les fruits du sacrifice, on les reçoit au moment où on reçoit l'hostie. Donc au moment où je communie, après, voyez, les fruits sont reçus. Après, bon, je rends grâce, je fais tout ce que je veux, mais ça y est, les fruits sont reçus. Donc ce qui est important, eh bien, ce sont les dispositions de l'âme au moment où l'Eucharistie va être reçue. Et donc, il est beaucoup plus important de bien se préparer à la communion que de bien rendre grâce. Bon, c'est important aussi de rendre grâce. Hein. Mais il est plus important, simplement, eh bien, de bien se préparer. Que l'âme soit bien disposée au moment où elle reçoit l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie va agir en fonction des dispositions où elle va trouver l'âme. Si elle tombe dans une âme toute belle, toute enflammée de charité, de désir, alors là, les fruits, ça va pénétrer comme dans du beurre, si j'ose dire. Enfin, voilà. C'est parfait, là. Et la meilleure préparation à la communion, hein, si on parle de la préparation, c'est la messe. La messe, justement, elle est toute orientée à nous préparer à faire une sainte communion. Celui qui suit la messe, vraiment, qui s'unit à toutes les prières qui sont faites par le prêtre, etc., mais normalement, au moment de la communion, ben, il est tout disposé à faire une belle communion. Et je pense, et Monseigneur aussi le pensait un peu, ça, peut-être, attention, je m'aventure un peu, peut-être, mais Monseigneur le disait, donc je peux le dire aussi, qu'à certaines époques dans l'Église, on a trop intensifié la dévotion eucharistique au détriment de la dévotion à la messe. Oui. C'est bien l'Eucharistie, c'est bien les processions du Saint-Sacrement, les congrès eucharistiques, tout ça c'est très bien, c'est magnifique, mais il ne faut pas perdre de vue que le sacrement, il est sacrifice. Oui, donc peut-être un équilibre oui, à conserver.